应该是打高尔夫了。
On va les enfants, à bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission du cinéma sur Transistor. Ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir en direct pour ce 46e numéro d'Étoile plein les yeux. Ce soir, il sera la question du dernier film du réalisateur japonais Koji Fukada, Harmonium, qui a troublé notre poil par sa cruauté silencieuse. Et pour continuer à découvrir les énigmes du cinéma japonais qui bat son plein ces derniers temps, nous sommes guidés par les yeux et les voix d'Aurore et Raimi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonsoir Anastasia.
Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akie mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier après une décennie en prison. À la surprise d'Akie, Toshio lui offre un emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s'immonce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette et se reproche doucement d'Akie. Alors, un film ambivalent, sombre, pas évident, qui laisse le spectateur dans les doutes énormes qui nous laisse réfléchir si on a bien interprété les choses, si derrière les références qui semblent assez évidentes, il y a du sens beaucoup plus profond qu'on ne le puisse penser. Alors j'ai hâte d'apprendre vos premières réactions, Aurore et Rémi.
Ma réaction à chaud parce que je l'ai vu... Hier soir, je suis sortie de la séance à 22h et je suis encore un peu bouleversée par ce que j'ai vu. C'était mon premier film japonais. Et comme première découverte, c'est assez... Ouah, ça envoie, quoi.
Oui, alors c'est quelque chose de très très japonais, mais de très extrême au sein du cinéma japonais, parce que on retrouve un certain nombre de thèmes, bon, la question de la famille, et puis c'est une vision des rapports sociaux extrêmement extrêmement étrange, et puis c'est un film qui est sans concession, un film qui nous tombe dessus un petit peu comme ça, on ne sait vraiment pas comment le prendre. Bon, deux jours après, je ne saurais pas vous dire si j'ai aimé ou pas ce film, ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience qui mérite à tous les coups d'être vécue. Et c'est vraiment, oui, quelque chose d'impressionnant au sens premier étymologique du terme.
Et toi, Anastasia ?
Pareil, j'ai des sentiments, on peut mélanger, je ne sais pas... quoi penser, parce que c'est vraiment le film qu'on apprend et qu'on essaie de comprendre après avoir essayé de résoudre le problème qu'on a, oui. En fait, parce que ça vient pas tout de suite, les spectateurs restent dans l'ombre, voilà, et c'est vrai que pour moi c'était un film assez pesant, mais là je voudrais bien entrer un peu dans les détails parce qu'il y avait quand même énormément de choses très parlante, oui. La symbolique du film était extraordinaire. Et je ne sais pas, déjà, oui, on peut commencer par les couleurs dans ce film.
La place de la couleur rouge dans ce film.
Ah oui,
ce rouge qui apporte tout ce qu'il peut y avoir de tragédie et de tragique dans le monde. Et c'est vraiment, le tragique dans le monde se repère, oui. À sa couleur rouge.
Et c'est vraiment la seule couleur vive. Oui. Qu'il y a dans le film. Sinon, tout est blanc, tout est gris, tout est couleur bois. Le rouge détonne. Et c'est vraiment... Oui, il prend une symbolique tout à fait particulière dans ce film. Très tragique.
Alors, autre chose, et qui prend une symbolique très discrète au début, mais dès le début, je me disais, c'est étonnant. Alors, il y a une scène où le nouvel arrivant, du coup, fait le ménage à la place de ses hôtes, fait la vaisselle, pardon. Et un certain nombre de petits détails comme ça, où l'importance du geste de laver et de se laver aussi,
qui petit à petit
devient complètement obsessionnel dans le film. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort dans cette symbolique qui s'impose petit à petit et qui dit aussi ce qu'est ce film, à savoir un film sur une tâche complètement indélébile,
ça, oui.
et indélébile et tragique, indépendante de toute volonté des personnages.
Mais la tâche, et se laver, oui, tout à fait relié à la tâche, parce que dès le départ, on voit ce nouvel arrivant se laver dans la salle de bain, et il y a le miroir en face de lui, on le voit en train de se laver, mais dans le miroir, et on sent qu'il a un lourd passé, qu'il revient un petit peu voilà,
cette
après.
Cette duplicité.
C'est ça, cette duplicité. Et petit à petit, ce motif revient jusqu'au moment où, dans la deuxième partie, on voit que la mère se lave frénétiquement les mains, constamment à vouloir se désinfecter. Et on sent que ça se rapproche de cette symbolique de la couleur rouge avec cette tragédie. Je ne sais pas si je peux spoiler un petit peu. Mais
oui, de toute façon, l'irréparable a été commis au milieu du film. Et il y a un avant et un après.
Cette idée de tout le temps se laver les mains, moi, me fait vraiment penser à Lady Macbeth. Je ne sais pas si vous l'avez senti en voyant le film, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Elle a commis une faute, selon elle, qui a mené à une tragédie familiale. Et elle se lave les mains frénétiquement en repensant à cette faute.
Je sais pas. Qu'on pourra résumer sous le nom de destruction de l'enfance. Oui. Destruction très symbolique là aussi. Mais
Je n'y ai pas pensé, mais effectivement, en fait, pour moi, ça paraît très pertinent. Et par rapport à cette habitude, disons, de se laver, de laver les mains et tout, ça aussi renvoie au terme de la pureté. Au terme du blanc, qui apparaît aussi d'une manière assez fréquente. Déjà, Yakasa, qui cet homme qui apparaît dans la vie de cette famille, qui tout le temps est habillé du blanc.
Oui.
Et à un moment donné, qui est assez parlant, on voit des taches sur ses habits blancs. Et pour moi, ce blanc, ça renvoie vraiment à l'espèce d'enfant d'homme que représente en fait Yakasa.
Et puis la raideur de ce personnage, qui est vraiment
complètement
fantomatique.
Oui, absolument. Et pour moi, en fait, ça m'a fait penser parce que je ne savais pas comment interpréter tout ça. Mais finalement, je me suis dit qu'en fait, il apparaît d'une manière assez brute et il disparaît de la même manière. Et du coup, pour moi, c'était vraiment genre de Deus Ex Machina qui apparaît pour faire quelque chose, pour changer des choses de ce qui se passe. Je ne dirais pas que lui, il est un véritable diable plutôt, mais la bonne chose qu'il apporte dans cette famille, ce sont les émotions. Parce qu'avant, pour la première partie du film, c'est une vie absolument plate, sans aucune émotion.
Dès le départ, de la première
scène. Tout d'un coup, lui, il apporte vraiment de la vie.
C'est ce que dit Akié à la fin. Non, c'est Toshio, le mari, qui dit « Depuis le terrible événement, on est un couple.
Oui, »
Et ce terrible événement, c'est l'arrivée de Yakasa dans cette maison.
Mais complètement. Et bon, alors, ce personnage fantomatique, là aussi, il a quelque chose de très shakespearien. Et Shakespeare irrigue le cinéma japonais. Oui. Je pense qu'on l'a rarement vu de façon aussi forte que dans ce film-là. Mais ce que je pense que ce personnage qui intervient, et donc du coup un petit peu le sujet du film, c'est vraiment le vecteur de l'éclatement d'une violence familiale qui était déjà enfouie dans cette famille depuis longtemps. Et plus qu'un vecteur, en fait, il l'incarne, cette violence. Et je pense que ça intervient à plusieurs niveaux. La façon dont ça agit sur le personnage féminin aussi, Akié, est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence entre la douceur qu'il peut y avoir entre ces deux personnages et puis certaines scènes qui relèvent quand même de la tentative de viol. Et de la façon dont cette violence qui est rejetée à la fois par le père et par la mère, eh bien, se déverse tout naturellement sur l'enfant. Et y a une image qui est répétée plusieurs fois dans le film, comme quoi une histoire d'araignées qui vont au paradis ou pas.
Oui.
Alors c'est clair que la terre comme l'au-delà sont un enfer pour les parents. Et cette faute se transmet sur leurs enfants. Et il y a vraiment une vision extrêmement noire de la famille comme carcan qui nous empêche de vivre, que propose le réalisateur. Et à ce titre, le film est vraiment porteur d'un message très très fort.
Mais la destruction de la famille se voit même dans la deuxième partie du film, avec cet orphelin qui revient, qui veut savoir un peu plus sur son père. Mais on voit qu'il y a un délitement de la famille, quelque chose qui ne peut plus tenir. Et à la fin, dans la famille de Toshio et Akié, la solution de la séparation est envisagée, pleinement envisagée.
Ben oui, c'est justement ce que Fukada, le réalisateur, disait lui-même. Il est assez sceptique par rapport à l'institution familiale. Il trouve pas
que... extrêmement forte au Japon.
Ben oui, mais en plus, là, je crois qu'il essaie de mettre en valeur les défauts peut-être de la société japonaise. Là, je ne peux pas dire certainement parce que je ne connais pas trop la société japonaise, mais il me semble quand même qu'il y a des problèmes qui existent et qui sortent d'une manière très brute, parce qu'on ne voit pas des problèmes, voilà, tout est tranquille, tout se passe bien, comme si c'était voilà, de bonheur en doux. Mais en réalité, voilà, comme tu as dit, Rémi, il y a de la violence dedans, il y a des problèmes énormes qui ressortent d'une manière très... comment dire, en tragique.
Oui. Et en fait, énormément de choses sont dites en creux dans ce film, et l'essentiel du discours passe non pas par le dialogue, mais par le vide des paroles qui sont prononcées, qui sont de l'ordre de la pure politesse, et qui laissent voir ces personnages crispés sur leurs paroles de politesse pour montrer cette espèce d'incommunicabilité totale qui est entre eux.
Et le creux plus que paroles.
Et la mort du cadre. C'est ça.
La mort du cadre, tout à fait, des plans vides, seulement avec un personnage qui sort du champ, avec un personnage qui sort du champ, et finalement le plan continue de nous montrer l'appartement, la chambre, et il y a aussi ce vide, ce silence qu'on perçoit justement à travers le rythme du métronome.
Du métronome qui est abandonné par la fillette dans une première scène éloquente.
Ah oui.
Et après aussi, les photos prises deux fois de la même manière, c'est aussi... la photo, c'est quelque chose de très stable, quasi mort. Et il y a voilà, ça évoque toujours... la mort et tout. Et après, il y a aussi peu de personnages qui font aussi ce vide. On est vraiment centré sur une famille qui peut-être vide aussi.
Oui.
Mais tu parlais de ces photos et c'est vraiment c'est vraiment ça. Alors il n'y a pas deux photos, il y en a trois en fait. Il y a vraiment une première photo où on a la famille, une deuxième photo où on a la famille endormie avec cet homme qui est couché là et qui semble mort.
Oui.
Et on sent déjà l'étrangeté dans cette photo. Et puis on a le dernier plan de ce film où on a ces quatre personnes qui sont couchées sur la grève, mais qui sont couchées dans une grève complètement détachée de toute forme de vie, et on ne sait plus exactement lesquels d'entre eux sont vivants et lesquels sont morts.
Ah oui.
Après une scène qui est de noyade qui tient de l'apocalypse.
C'est ça, et qui est un retour à l'origine. Ils reviennent dans ce lieu originel de la famille, cette rivière où ils venaient passer du bon temps en famille avec Yakasa. Et voilà, ça se termine tragiquement, quoi.
Tragiquement, et une tragédie qui échappe à toute rationalisation dans le film. Et c'est ça qui en fait la force, c'est le fait que c'est complètement organique. Vraiment, on n'essaye pas d'expliquer les crimes qui ont été commis. Ils sont là, et c'est vraiment éminemment tragique, dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre du destin.
Oui, tout à fait. J'ai vraiment perçu ça aussi.
Je suis persuadée qu'on est bien d'accord que c'est un film qui pose des problèmes, et il vaut le coup de voir. Mais il n'y a pas que Harmonium dans les salles de cinéma à Lyon. Je te passe la parole, Rémi, pour les sorties prochaines.
Alors, je commence avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, film dont vous avez sans doute déjà entendu parler puisqu'il date de 2005 et qui raconte l'histoire de Joël et Clémentine qui ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour. Tiens, encore une fois. Au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Le célèbre film de Michel Gondry, donc, qui a reçu un prix du meilleur scénario original aux Oscars, sera en salle ce vendredi 10 février à 20h30 au CNP Bellecour. Et c'est une séance qui sera présentée. Voilà, je continue avec Focohama et par-delà Lampedusa, qui n'était plus en salle depuis quelques temps, mais qui repasse également en séance présentée, ce lundi 13 dans la même salle du CNP Bellecour. C'est un film qui se penche sur l'épineuse question des migrants avec une intelligence de réalisation assez impressionnante, et je vous renvoie vers la critique que nous vous en avions faite dans notre numéro 32. Ensuite, Martin Scorsese sort Silence. Alors évidemment, son film avec Liam Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver je me contenterai de dire que pour la deuxième fois de sa carrière, il se penche enfin sur le thème de la religion centrale dans son œuvre pour un film qu'il aura travaillé pendant 30 ans d'affilée. Si ça ne vous donne pas envie d'aller le voir, je vous laisse vous jeter sur la bande-annonce et normalement, ça devrait être bon. Et puis enfin, les 400 coups de François Truffaut passent à l'Institut Lumière ce week-end. Pour ceux qui n'ont toujours pas eu la chance de voir ce petit bijou d'espièglerie et ce chef-d'œuvre absolu du cinéma français, vous n'avez plus aucune excuse. C'est ce vendredi à 19h et samedi à 16h30. Voilà, d'étoile plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était donc Anastasia Kozireva, Aurore Sesportes et Rémi Cerda. Merci beaucoup Alice Rabillou et Marie Blanc à la régie.
Merci Rémi, Anastasia, Aurore. En espérant que cela vous a donné des idées de sorties ciné, chers auditeurs, restez avec nous sur Transistor et retrouvez tout à l'heure votre rendez-vous historique habituel avec un numéro des Transistoriens qui vous parlera aujourd'hui de l'histoire des tziganes. Mais tout de suite, une petite nouvelle dans la grille de notre web radio, une émission culinaire spécialement créée pour ce 6-9 inédit. Ça tombe bien, c'est l'heure du dîner. Sans se prendre le chou, c'est avec Nicolas, Mathias et Marie, avec un script auquel Pierre a participé.